Le collège de Rivière-Salée ne survivra pas aux émeutes du mois de mai. La province sud n'a pas les moyens de réaliser des travaux dont la facture s'élève à plus de 700 millions de francs. La ville de Dimbé a été durement touchée par les exactions, mais elle reprend doucement des couleurs. Témoignage à venir dans cette édition. Un frémissement ressenti aussi du côté de l'activité touristique où certains gîtes et restaurants hors Grand Nouméa enregistrent des réservations pour les vacances scolaires. Qantas reprend ses rotations avec Nouméa interrompues peu après le début des émeutes. Elle devient donc la première compagnie régionale à reprogrammer des vols à destination de la Nouvelle-Calédonie. Les JO, Kaouli Vast devient le premier français champion olympique de surf. Le jeune surfeur, dont la maman est calédonienne, vient de remporter la finale chez lui à Tahiti face à l'Australien Jack Robinson. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est l'une des conséquences des émeutes à Nouméa. Le collège de Rivière-Salée ne rouvrira pas ses portes à la rentrée 2025. La province sud, qui avait pourtant prévu d'y faire des travaux, a pris cette décision car elle ne peut pas faire face, Jean-François Baudin.
La province sud dispose désormais d'un état des lieux précis des dégâts causés par les émeutiers sur les collèges de la province. La facture se monte au total à 1,6 milliard et l'estimation de remise en état du collège de Rivière-Salée, particulièrement touché, représente à elle seule 40% de cette somme. C'est tout simplement impossible, explique Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province sud.
C'est la triste réalité de l'insurrection. Il y a plus de 60% du collège qui a été brûlé. L'impact pour remettre le collège de Rivière-Salée en état, c'est quasiment 750 millions d'investissements. Et on n'a pas la capacité aujourd'hui de le faire en accueillant des élèves. C'est beaucoup trop lourd comme travaux. Et comme sur l'ensemble de l'agglo, nos collèges ne sont pas pleins et qu'ils sont même en sous-effectif, on a la possibilité de redéployer les élèves du collège de Rivière-Salée à partir de l'année 2025 dans les collèges de Porte-de-Fer, de Caméré et peut-être de Loire-de-Normandie. Ça, c'est un travail qu'on fait avec les vice-rectorats.
C'est d'autant plus dommage, explique encore Gilles Brial, que la province avait prévu de faire des travaux dans les 3 ans qui viennent au collège de Rivière-Salée. Mais les émeutes et les dégâts causés sur l'établissement ont changé la donne.
On a un plan pluriannuel d'investissement sur l'ensemble de nos collèges. C'est 1,2 milliard par an qu'on dépense pour rénover nos collèges. Et ce qui était prévu dans les 3 ans qui viennent, c'était une réfection des bâtiments. Et malheureusement, le bâtiment qui a été détruit par le feu, c'est celui qu'on voulait conserver, et celui qui n'a pas été détruit, le plus petit, c'est celui qu'on voulait raser. Donc ça ne correspond pas du tout aux objectifs ni au potentiel de capacité du collège. C'est pour ça que malheureusement, parce que c'est toujours un déchirement, on préfère fermer le collège, parce qu'aujourd'hui, techniquement, on ne pourra pas le maintenir en toute sécurité ou dans des conditions normales d'enseignement avec autant de travaux à côté.
Le collège de Rivière-Salée fermera donc ses portes à la rentrée 2025. Cela fait quelques années que la province sud, comme les autres collectivités, réfléchit à organiser sa carte scolaire, c'est-à-dire la répartition des élèves dans les différents établissements dont elle a la responsabilité. Les émeutes n'ont fait qu'aggraver les choses, mais cette réflexion était devenue inévitable.
Dans le primaire, de 2020 à 2024, on a perdu en province sud 1450 élèves. Donc ça, c'est des élèves qui sont censés partir dans le collège après. Donc ces 1450 élèves qu'on a perdus, c'est l'équivalent de 3-4 collèges aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il va falloir revoir progressivement nos investissements parce qu'on va arriver avec des établissements scolaires, que ce soit collège ou l'école primaire, qui vont être complètement en surcapacité par rapport aux enfants accueillis. Donc il y aura un travail à faire. Mais là, c'est plus la perspective malheureusement liée aux événements. C'est la triste réalité de l'après 13 mai. Sans compter qu'en plus, on a tous les départs depuis le 13 mai de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il va y avoir un gros travail à faire sur les cartes scolaires.
Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud. Cette année, le collège de Rivière-Salée, prévu pour une capacité totale de 900 élèves, n'en accueillait que 385 depuis la dernière rentrée scolaire.
L'OPT s'engage dans l'accompagnement de la continuité pédagogique. En collaboration avec le gouvernement et sous l'impulsion du vice-rectorat, l'Office s'engage à fournir un accès gratuit au site pédagogique via son réseau mobile. Ainsi, tous les élèves et les étudiants disposant d'une carte SIM Mobilis active bénéficient désormais d'un accès illimité au site internet du vice-rectorat, et ce, sans impact sur leur forfait Internet. Et puis les étudiants calédoniens qui partent pour rejoindre les universités ou les grandes écoles de métropole sont accompagnés par les institutions. Comment ont-ils préparé leur départ? Quelles sont les mesures prises par les provinces pour faciliter leur parcours? C'était le thème de notre magazine citoyen ce midi, Gilles Ménage.
En moyenne, 1500 calédoniens partent chaque année faire des études en métropole, voire à l'étranger. Ils sont accompagnés de A à Z, notamment par la province sud qui leur vient en aide pour la préparation de leur voyage, qui les accueille en métropole et les aide dans l'ensemble de leurs démarches administratives. C'est le cas aussi pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, avec cette particularité qu'ils ont dû passer leur concours cette année, la première semaine des émeutes, dans des conditions extrêmement difficiles, a souligné François Medviel, qui est enseignant en classe préparatoire à Jules Garnier.
Il y avait deux promos, une qui devait passer ses concours écrits à partir du 13 au lycée Jules Garnier, et une autre promo qui devait passer ses concours écrits à partir du 13 à l'hôtel du centre, du COS. La promo qui devait passer à Garnier, il y avait pas mal d'élèves qui étaient du Grand Nouméa et de l'extérieur, c'est-à-dire de Païta, d'Imbéa, du Mont d'Or. On s'est dit, bon, ça serait plus raisonnable de les intégrer à l'internat le plus rapidement possible. Ils sont rentrés pour quelques jours et finalement, au vu des événements, ils sont restés coincés au lycée. Et pour les autres qui passaient les concours à l'hôtel du centre, eh bien, de même, le proviseur, l'APE, ont tout mis en œuvre pour qu'ils puissent être logés aussi dans cet hôtel. Eh bien, leur en a pris, puisqu'ils ont passé en fait, leur concours du 13 au 16 mai, protégés par les forces de l'ordre, sous les bombes, enfin, sous les explosions, au milieu des exactions, des émeutes, etc.
Malgré ces conditions, les élèves de prépa ont fait preuve d'une grande force de caractère, puisque 100% d'entre eux ont réussi leur concours d'entrée. Notez d'ailleurs que deux jeunes femmes sont sorties 7e et 10e au plan national au concours d'entrée à Polytechnique. D'autres étudiants qui étaient partis pendant la première semaine des événements ont été accueillis par la province sud avec cette fois un moral en dents de scie, a souligné Marie Leroux-Kiwi, qui est adjointe à la direction de l'éducation et de la réussite à la province sud.
Ceux qui sont partis au début de la crise, on les a accueillis sur Paris les 25-26 mai. Et avec le bureau des étudiants sur Paris, des bureaux des étudiants de la province sud à Paris. Et on les a trouvés en forme, physiquement. Et on a senti au deuxième jour un coup de baisse au moral parce qu'il y avait l'éloignement, il y avait le manque de la famille. Ils n'avaient pas eu le temps de dire au revoir à leur famille pour ceux qui partaient et qui allaient rester jusqu'à l'inscription, jusqu'à l'admission. Certains qui devaient revenir et qui se sont dit qu'avec le contexte, il vaut mieux y rester pour éviter d'être bloqués de nouveau. Donc on avait un peu de tout, des jeunes qui savaient ce qu'ils voulaient faire, toujours. Et ça, ils ne le lâchent pas. En revanche, c'est une incertitude au niveau de leurs émotions et de leur envie d'aller plus.
Un magazine citoyen que vous pouvez bien sûr retrouver en réécoute audio sur notre site internet.
Dans l'actualité judiciaire, le parquet de Nouméa a ouvert une enquête pour homicide involontaire par conducteur et défaut de maîtrise à la suite de l'accident de la circulation mortelle survenu le samedi à Thiou, Gilles Ménage.
Oui, le drame s'est produit à 9h40 précisément sur la RP4 dans le secteur de la tribu de Kergoua. Tout au long de la route jusqu'à la zone de l'accident, elle était jonchée d'arbres coupés et de carcasses de voitures qui obligeaient les véhicules à des contournements d'obstacles. À leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs ont constaté, dit Yves Dupas, la présence de deux véhicules qui présentaient une carrosserie très endommagée. Des premiers éléments de l'enquête, il ressort que le conducteur de l'un des véhicules qui se trouvait dans un virage a été contraint de dévier de sa trajectoire qui était obstruée par la présence d'un arbre. Il a alors percuté dans une collision frontale le second véhicule qui arrivait en sens inverse. Dans le premier véhicule, la passagère arrière, âgée de 57 ans, très grièvement blessée à la tête, a été transportée par hélicoptère au centre hospitalier du Medipôle, où elle est malheureusement décédée des suites de ses blessures le lendemain dans l'après-midi. Le conducteur et les deux autres passagers du véhicule présentaient des blessures légères. Originaire de Canala, ils se rendaient à un mariage coutumier. En parallèle à cette enquête, le procureur de la République précise qu'une autre procédure a été ouverte, des chefs de blessures involontaires et homicides involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence. Cette deuxième enquête vise les personnes qui ont déposé les obstacles sur la route et qui, de ce fait, ont contribué aux conséquences dramatiques de cet accident.
Cet appel à témoins de la police nationale après la découverte lundi après-midi d'un nouveau-né décédé sur la plage rue de Papeete à Ducos. Une enquête judiciaire a été ouverte. La police demande aux personnes qui détiendraient des informations susceptibles d'aider les enquêteurs de contacter le groupe de protection de la famille et des mineurs au 24 33 00, le 24 33 00 ou au 17. Hier soir, vers 17h30, 4200 clients d'EEC ont à nouveau été plongés dans le noir au Mont d'Or Sud. Un arbre qui a chuté a endommagé des lignes électriques au niveau du pont de la Tille. Le courant a été interrompu pour toute une partie de la ville. Un peu plus d'une heure plus tard, à 18h45, l'électricité est revenue, hormis pour les habitants de la tribu de Saint-Louis. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour permettre l'intervention des équipes d'EEC. 273 foyers restent donc sans électricité depuis hier. Une nouvelle coupure aura lieu demain de 13h 13h à 14h pour l'ensemble des clients du Mont d'Or Sud, cette fois pour des travaux de maintenance.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Près de 3 mois après le début des émeutes, la vie reprend lentement son cours à Dimbéa. La ville a été beaucoup touchée par les exactions. Aujourd'hui et depuis quelques semaines, les habitants peuvent enfin souffler. C'est le cas par exemple à Auteuil où l'insécurité a longtemps régné. Le prêtre du secteur de Dimbéa basé à Auteuil témoigne de cette amélioration.
Ça fait maintenant 3 semaines que le calme est revenu. Il y a moins en moins de bruit et de détritus sur les routes. Moins en moins de jeunes aussi qu'on trouve tard le soir. On entend moins les lacrymos et tout ce qui faisait du bruit jusqu'à minuit, 1h du matin. Puis oui, ça fait plaisir de dormir avec un grand silence. Les choses reprennent leur cours normal et puis j'espère que cet engouement qu'on avait pour pouvoir espérer dans l'impossible reviendra. Afin qu'on puisse reconstruire le pays sur du neuf et pas sur de l'ancien.
Une bouffée d'air également pour les commerçants de la commune qui voient leur clientèle revenir petit à petit. On écoute leur témoignage.
En fait, là, il y a de plus en plus de monde qui sortent parce qu'ils avaient beaucoup d'a priori sur Dimbéa. Parce que c'est vrai que c'est là où ça a le plus un peu pété. Et là, je pense que les gens, ils ont de moins en moins peur vu que la vie, elle a repris son cours. Du coup, il y a de plus en plus de monde, que ce soit à la boutique ou même sur la route.
Ça commence un peu à décoller, on va dire, ouais, au niveau des ventes et de la venue des gens, quoi. Ça a été compliqué parce que nous, en fait, notre grosse boutique était à Kinouin, dans la galerie de Carrefour. Vu qu'on a perdu notre gros chiffre d'affaires, donc on ne peut pas rattraper tout ça, mais on essaye de garder notre clientèle et on retrouve du monde, donc ça fait plaisir, ouais.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson, un message d'espoir, donc avec tout de même une ombre au tableau, l'absence de transport en commun qui isole les habitants de certains quartiers, tels que Jacaranda, particulièrement touchés par les exactions. On parle beaucoup d'un marché de l'immobilier en plein bouleversement depuis le début des émeutes, mais qu'en est-il vraiment? Quels sont les retours des agents immobiliers? Quels sont les secteurs qui connaissent le plus de changements? Rendez-vous demain matin à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Notre invité sera Jean-Damien Ponroy, le président de la Fédération territoriale des agences immobilières. La commission exécutive élargie de l'Union calédonienne s'est réunie hier et elle dresse un bilan de la situation. Seul élément nouveau, Jean-François Baudin, elle prend acte du retrait du projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral.
C'était l'une des revendications récurrentes de l'UC, de la CCAT et du FLNKS. La commission exécutive de l'UC prend acte que le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral voté au Sénat et à l'Assemblée nationale est définitivement enterré. Ce sont apparemment les parlementaires indépendantistes qui l'ont convaincu après leur entretien avec le président de la République. Pour le reste, rien de très nouveau dans ce communiqué signé de Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'Union calédonienne. Il réaffirme que la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie, tant au niveau politique, économique, financier ou social, est de la responsabilité de l'État. La commission exécutive de l'UC dénonce une fois encore l'arrestation et la détention en métropole de son commissaire général et de ses militants. Elle condamne ce qu'elle qualifie de répression orchestrée par les forces de l'ordre et les intrusions intempestives dans les quartiers populaires et les tribus. Et elle réclame le départ du haut-commissaire. La commission exécutive élargie de l'Union calédonienne proteste également contre l'annonce par la ministre des Outre-mer d'un renforcement des forces de l'ordre après les Jeux Olympiques. Elle prétend enfin que les résultats des dernières législatives ont démontré que les indépendantistes et les progressistes sont majoritaires en Calédonie et que l'avenir du pays ne pourra que s'inscrire dans cette perspective. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 80% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'après le report de son congrès prévu mi-juin à Netshaot, le FLNKS doit réunir rapidement un congrès pour clarifier ses positions. Ils sont 20% à ne pas partager cet avis. Notre question du jour, alors que l'on est dans la dernière semaine de compétition, êtes-vous passionné par les Jeux Olympiques de Paris? Si les Jeux Olympiques vous passionnent, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 17h59, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On se retrouve tout de suite après une page de pub.
Spécial.
spécial info-jeu SMS sur RRB. Le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Cafard, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
Info Soir, Isabelle Pelletier.
Le secteur du tourisme en dehors de Nouméa a beaucoup souffert de la crise depuis le 13 mai, mais de nombreux Calédoniens semblent vouloir profiter des vacances pour prendre l'air. Et certains prestataires retrouvent peu à peu une activité, Gilles Ménage.
Oui, c'est un rebond timide, mais il est réel, alors que le secteur, en effet, est sinistré depuis le 13 mai, faute de sécurité, bien sûr, faute de structures ouvertes et aussi... bien sûr, faute de clients. La période de vacances qui vient de commencer, associée aux efforts des forces de l'ordre pour sécuriser les routes, permet donc cette tendance à l'amélioration. C'est ce que nous a confirmé Roxane Brun, elle est directrice de Sud Tourisme.
À l'approche des vacances scolaires, on avait commencé à monitorer les intentions de réservation un petit peu partout, que ce soit à Nouméa et en dehors de Nouméa, notamment à Bouraï. Et donc, ça se confirme, il y a un petit sursaut qui est salutaire pour certains prestataires touristiques puisqu'ils enregistrent quelques réservations. Les prestataires nous parlent de 30% de leur chiffre d'affaires de l'an dernier pendant les vacances scolaires, donc c'est quand même pour certains honorable. C'est des structures de loisirs, d'hébergement, la restauration qui est bien préservée sur Nouméa notamment, mais en dehors, qui commence à refonctionner. On a eu des tables d'hôtes à Boulou-Paris qui enregistrent quelques réservations pour les prochains jours. Ça reste évidemment insuffisant pour maintenir leur activité à flot, mais ça montre que les gens recommencent un petit peu à sortir de Nouméa.
À Nouméa et dans le reste de la Calédonie, la présence des renforts de forces de l'ordre a permis à certains prestataires de maintenir une activité, comme les sorties baleines par exemple, ou les sorties plongées qui enregistrent des réservations. D'autres ont été aidés par la réouverture du domaine de Deva. C'est le cas d'Air Paradise qui propose des survols du lagon en hydravion et qui s'est adapté en proposant de nouvelles offres, explique Sophie Giudicelli.
On a pas mal d'appels, on ne va pas dire beaucoup, mais pas mal d'appels et de réservations depuis le début des vacances. On sent bien que les gens veulent s'aérer, sortir de Nouméa et sont rassurés que les routes sont sécurisées. Nous, on fait un partenariat avec le Far West Ranch de Deva, une balade à cheval. Donc, si on prend un vol en hydravion, on a 15% sur la balade à cheval. Et inversement, la personne qui va faire une balade à cheval au Far West Ranch aura 15% sur un vol de 20 minutes avec nous en hydravion.
Ça veut dire que vous espérez quand même retrouver un peu de chiffre d'affaires, là ?
On n'aura pas ce chiffre d'affaires, non, pas du tout, on ne va pas le retrouver. Depuis les événements, on n'a pas volé du tout, on a fait quelques vols... dans le mois, mais c'était vraiment dérisoire. On vole depuis samedi, mais au niveau chiffre d'affaires, c'est rien du tout.
C'est encourageant quand même de voir qu'il y a un petit mouvement là pendant les vacances ?
C'est encourageant, bien sûr. C'est encourageant de voir que les personnes ont envie et que les activités reprennent, que ça bouge un petit peu plus. Après, on se dit comment ça va être à la fin des vacances.
Et pour les Calédoniens qui hésitent encore à prendre la route, il existe aussi des solutions dans l'agglomération, comme le gîte d'Imbéa Nanda, qui connaît depuis le milieu du mois de juillet un vrai regain d'activité. Mais cela s'explique aussi par la proximité de Nouméa, estime Héloïse, la responsable du gîte.
Je pense qu'avant, les gens pensaient que c'était peu des paysans, le fait que ce soit si près de Nouméa. Et en fait, ils se rendent bien compte que même à 35 minutes de Nouméa, on est ici complètement isolé, perdu dans la nature. Et en plus, avec des balades incroyables à faire dans la vallée. Donc les gens se rendent compte sans doute qu'il n'y a pas besoin de prendre la route, d'aller trop loin pour se faire une escapade et s'échapper un petit peu de toute cette tension qui a pu naître à travers les émeutes. Donc voilà, moi je constate effectivement un regain d'activité depuis mi-juillet. Quand on interroge les gens qui viennent ici, Les gens disent tous qu'ils ont besoin d'une bulle de calme, quoi, parce que ça a été tous les jours, le bruit des explosions et des insultes, et que c'est terrifiant, et puis c'est traumatisant aussi, ils ont besoin d'une pause, quoi.
Évidemment, on est encore très loin de revenir au niveau de fréquentation enregistré avant les événements. Et malheureusement, pas moins de 30 structures ont décidé de fermer leurs portes définitivement en province sud. Mais beaucoup d'autres s'accrochent à l'idée d'un retour au calme général.
La province sud rouvre demain le parc zoologique et forestier de Nouméa, ainsi que le parc des Grandes Fougères de Farino. Ils étaient fermés depuis le début des émeutes. Le parc forestier a d'ailleurs été victime d'exactions. 8 animaux sont portés disparus. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte. Malgré les difficultés de déplacement et d'approvisionnement en nourriture, les équipes du parc zoologique sont restées mobilisées ces 3 derniers mois pour protéger la faune et la flore. Et le reste des pensionnaires se portent bien. Les deux parcs seront dans un premier temps ouverts du mercredi au dimanche, de 9h à 16h. Le parc des Grandes Fougères dispose d'une nouvelle attraction, un parcours d'acrobranche. Qantas reprend ses rotations avec Nouméa. Elles avaient été interrompues au début des émeutes le 13 mai pour des raisons de sécurité. Qantas est donc la première compagnie aérienne régionale à reprogrammer des vols à destination de Nouméa, Gilles.
Et le premier d'entre eux s'est posé à La Tantouta le 3 août et a reçu, d'après la compagnie aérienne australienne, un accueil particulièrement chaleureux. Vacances scolaires oblige, cette première rotation depuis 2 mois et demi est d'ailleurs repartie à plein. Les vols Qantas avaient été suspendus donc le 13 mai et la compagnie avait ensuite prolongé cette suspension le 20 juillet dernier, estimant que les conditions de sécurité des vols et des équipages n'étaient pas encore réunies. C'est donc une reprise, mais une reprise qui reste timide puisque pour l'instant Qantas ne prévoit qu'un vol nommé à Sydney par semaine le samedi au lieu de 5 par semaine auparavant. Une deuxième rotation est prévue à partir du 18 septembre le mercredi si les conditions restent en l'état. Le vol nommé à Brisbane, lui, reste totalement interrompu jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire le 26 octobre prochain. Quant à l'agence commerciale du centre-ville, elle restera fermée au public tant que le couvre-feu sera en place, explique la compagnie australienne pour des raisons de sécurité. Mais les agents sont en télétravail et répondent aux appels de 8h à 15h. On peut rappeler que, de son côté, Air New Zealand n'a pas prévu de desservir à nouveau la Nouvelle-Calédonie avant la fin de l'année.
La pratique du drone en milieu urbain est très encadrée. En cause, la multiplication de cette pratique ces derniers temps pour des raisons récréatives ou de sécurité qui frôle souvent l'illégalité chez les particuliers, Gilles.
Oui, il n'est pas rare d'entendre le bourdonnement singulier d'un drone au-dessus de nos têtes à Nouméa en ce moment. Cela arrive notamment au niveau des barrages des voisins vigilants, bien sûr, pour renforcer la surveillance des quartiers ou pour photographier les bâtiments incendiés. Mais pour pouvoir survoler une zone urbaine, il faut des permis, sous peine de se voir infliger une amende, explique Teva Landras. Il est chef de projet et formateur chez Drone NC.
L'interdiction, elle est déjà en vigueur depuis tout le temps, parce que normalement, pour évoluer en zone peuplée, en agglomération, il y a une obligation d'avoir un examen théorique qu'on passe à l'aviation civile et une obligation de passer dans un centre de formation pratique pour pouvoir voler en agglomération. Donc déjà, tous les vols qu'on voit depuis quelques années et en ce moment qui sont en ville, ils sont déjà illégaux à la base. Et les amendes que vous risquez, c'est entre 15 000 à 75 000 euros d'amende avec 6 mois à 1 an d'emprisonnement. Donc ça, c'est ce que vous risquez, sans compter en plus les zones protégées qui peuvent se trouver près de l'Ansvata et près de la baie des Citrons, où là, c'est passible, je crois, de 90 000 francs auprès du Code de l'environnement au niveau des amendes. Donc ça peut se coupler. Et c'est pour ça, notamment, qu'il y a la police nationale qui tourne en ce moment avec des appareils qui sont susceptibles de trouver et d'appréhender les personnes qui volent avec des drones, en tout cas en ce moment.
Et si au début des émeutes, la police a fait preuve d'une certaine tolérance concernant les vols de surveillance effectués par des particuliers, c'est désormais terminé à présent que les renforts sont arrivés de métropole.
De la part des autorités, ils étaient contents de recevoir des images de drones de la part des voisins vigilants, etc., parce qu'ils étaient en sous-effectif et en sous-nombre. Et ils étaient très contents de recevoir des images et de voir que les gens, justement, essayaient de protéger leur quartier. On peut comprendre le sentiment d'insécurité, sauf que maintenant, voilà, il faut savoir qu'il y a des brigades qui sont venues de France avec beaucoup de matériel, avec beaucoup de moyens de sûreté, et que les premiers instants qu'on a eus en mai, c'était peut-être nécessaire d'avoir cette surveillance-là. Maintenant, l'utilisation du drone, on va dire que c'est plus risqué parce qu'il y a de plus en plus d'aéronefs qui ont repris leur route, notamment également pour les professionnels. Et donc, du coup, c'est plus risqué d'utiliser maintenant parce que là, il y a une chance de se faire en plus appréhender par les forces de l'ordre si jamais ils voient votre aéronef.
Et parmi les zones dangereuses à survoler, on citera bien sûr celle du Médipôle à Dimbert ou encore de l'aérodrome de Magenta, en raison évidemment du trafic aérien. Au début des émeutes, tous les exploitants d'aéronefs, drones, avions ou hélicoptères ont d'ailleurs reçu une notification de la part du service de la navigation aérienne concernant les restrictions de vol dans le Grand Nouméa. Teva Landras rappelle les règles à respecter pour voler en toute légalité avec son drone.
pour être en légalité, déjà, si vous êtes un pilote loisir, c'est de ne pas voler en agglomération, premièrement. De respecter 120 mètres de hauteur, maximum, si vous êtes en dehors de la ville. Au-dessus de 120 mètres, à 150 mètres, on est à l'aviation habitée. Pas de survol de personnes aussi, ça c'est totalement interdit. Et de respecter en fait les 10 règles d'or du télépilote que vous pouvez retrouver sur le site de l'aviation civile. Et si jamais les gens ils le souhaitent, ils peuvent retrouver la carte des zones de vol sur l'application NC Drone ou sur Georep, directement en allant chercher les zones de drone. Voilà, donc l'application NC Drone ou Georep. Vous pouvez trouver les zones de vol pour les loisirs.
Pour rappel, toutes les images postées sur les réseaux sociaux considérées comme dangereuses sont passibles de sanctions. Les autorités peuvent en effet dresser un procès-verbal ou entamer une enquête et rechercher l'auteur de ces images qui sera donc sanctionné d'une amende ou d'une confiscation du drone. L'année dernière, plus d'une dizaine de télépilotes ont ainsi été condamnés.
En cette période de vacances scolaires, l'association Les Villages de Magenta propose des activités et animations autour des Jeux Olympiques. Dans un contexte toujours tendu, l'association accueille les enfants à son siège de Magenta. Ils sont ensuite répartis à l'école sur l'eau, à l'école Michel de Charleroi-Roulis à Dimbéa-sur-Mer et à l'école Duboisé de Catiramona. Pour cette période de vacances, l'association propose uniquement des centres de loisirs, explique Nathalie Fontenelle, la présidente de l'association Les Villages de Magenta.
Les centres de loisirs uniquement, puisque les colos, on n'a pas pu les organiser, on n'a pas l'autorisation de se déplacer en dehors de Nouméa. Donc, il y a beaucoup d'activités proposées déjà par les animateurs. Ils ont appris à animer, bien entendu, toutes sortes d'ateliers, que ce soit culturels, sportifs, de l'animation pure. Et aussi des intervenants plus techniques qui sont mis à disposition par la province sud, notamment au niveau du sport, de la danse, de la musique, la poterie. Je vois qu'il y a la dame qui fait la poterie aujourd'hui ici. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup moins d'enfants, bien sûr. Ben, il y a des aides qui sont maintenues, comme les enfants boursiers, les bons CAFAT. Mais par exemple, il n'y a plus de bons du CCAS, de la mairie de Nouméa, qui aidait beaucoup les familles plutôt intermédiaires, qui n'ont aucune autre aide. Et donc, c'est vrai qu'il y a des familles qui nous ont fait remonter que ça leur posait des problèmes financiers. On essaie de répondre quand même le plus possible à la demande des parents. Et on est quand même vecteur de lien social et d'aider les parents. Dans cette période très compliquée, on ne peut pas passer à côté non plus.
Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la deuxième semaine de vacances et se font soit directement au bureau de l'association Les Villages du Magenta, au 5 rue Cécile Perronnet, ou par téléphone au 25 40 54, le 25 40 54. La province sud met à disposition des organisateurs des centres de vacances et de loisirs sur le site de la province sud. 18h12, nous marquons une deuxième pause dans ce journal avant de développer l'actualité sportive. On parlera bien sûr des Jeux Olympiques. À tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal et c'est du sport, Isabelle Beltier.
Et tout de suite, nous ouvrons nos pages spéciales Jeux Olympiques.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Les Calédoniens, on l'espère, vont encore glaner des médailles aux Jeux Olympiques, Jean-François Baudin.
Oui, après la médaille de bronze du nageur Maxime Grousset avec le relais français du 4x100 mètres 4 nages, les derniers espoirs reposent sur les épaules de Bassam Aouem, cadre technique à la Ligue d'escalade de Nouvelle-Calédonie depuis de longues années. Bassam Aouem fera son entrée ce soir dans la compétition à partir de 22h. Il sera en lice sur les qualifications de l'épreuve de vitesse en escalade. Mais ce matin, une autre médaille d'or nous a fait particulièrement plaisir. Le Polynésien Kaoli Vaste, dont la maman est calédonienne, est devenu le premier Français champion olympique de surf à la maison à Tahiti sur la mythique vague de Taiopo. Le jeune surfeur a remporté la finale face à l'Australien Jack Robinson, une grosse pointure de la discipline. Kaoli Vaste a apporté la 13e médaille d'or à la délégation française.
On a gagné ! Voilà ! Je sais pas quoi dire. C'était chaud. C'est chaud, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai eu les deux premières et après plus rien. Et voilà, c'est passé. C'était cette énergie, tout ce rythme. Voilà, il n'y a pas eu de vague tout le reste de la série. Il lui fallait un gros score. C'est passé. Et voilà. Comme quoi, ben, la nature fait bien les choses. Et voilà. Ça, c'est pour Tahiti, pour la France. Et let's go!
Je réalise pas encore. Je sais que c'était hit by hit et là je sais que j'étais en finale. Mais le fait de gagner contre Jack et tout, c'est déjà on a fait une finale de fou et voilà, et je réalise pas encore et c'est que du bonheur. Voilà, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde cette victoire. C'est pas que pour moi, moi je suis super content de mon résultat. Mais franchement là, c'est avec l'aide de tout le monde que j'ai pu faire ça et voilà.
Et un peu plus tôt, la surfeuse française Joanne Defay avait décroché la médaille de bronze après avoir battu la costaricaine Brisa Hennessy en petite finale.
Ouais, soulagement, c'est trop contente d'être allée la chercher. C'était difficile, on s'est donné tellement de moyens. On est venu ici plein de fois à Tahiti pour s'entraîner beaucoup. Et bah, la médaille, forcément, c'est ce qu'on veut tous. On veut être récompensé de notre travail et je suis vraiment fière de pouvoir faire ça aujourd'hui. Ça a été calculé au millimètre et honnêtement, c'est dur quand tous ces choix se reposent sur toi. Dans d'autres sports, des fois, tu es dans des équipes, il y a des gens qui... Il y a des plans un peu tout tracés. En surf, tu sais comment c'est. Chacun fait un peu comme il peut, comme il veut. Et ouais, on est récompensé là, donc c'est chouette. C'est vrai que le surf, c'est quand même nouveau dans les Jeux, mais... On se rend compte de l'ampleur de ce que c'est les Jeux Olympiques quand on les fait. C'est, encore une fois, ça touche tout le monde, on reçoit plein de messages. C'est ouf et si à notre petit niveau en surf on peut aussi faire vivre ça, c'est chouette.
Voilà, le site polynésien de surf qui avait fait couler beaucoup d'encre a finalement souri aux Français. Et grâce à ces derniers résultats, la France occupe la troisième place du classement des médailles avec 48 médailles au total, dont 13 en or.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et c'est Claude, un habitant de Poya, qui est aujourd'hui le gagnant de notre jeu de mémoire de jeu et qui remporte un bon carburant de 5000 francs offert par notre partenaire Shell. La question du jour était la suivante. En 1984, le Calédonien Jean-Paul Lacafia a participé à la finale du lancer de javelot au JO de Los Angeles. Nous vous demandions à quelle place il avait terminé. Il fallait taper JO3. Jean-Paul Lacafia a atteint la finale du concours du lancer de javelot cette année-là et il avait terminé à la 12e place. Rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur RRB. Il est maintenant 18h17, c'est presque la fin de ce journal. On va passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et la météo avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, le temps restera plus nuageux avec quelques averses isolées sur la pointe nord et le nord-est. Sur l'ouest, le ciel sera souvent étoilé. Ailleurs, des passages nuageux circuleront surtout en fin de nuit. Le vent s'orientera est à est-sud-est et mouillera progressivement entre 10 et 15 nœuds, voire moins de 10 nœuds sur l'ouest. Les températures se rapprocheront des normales avec 16 à 21 degrés jusqu'à 14 degrés, ce sera sur l'ouest. Demain matin, les nuages bas qui circuleront donneront parfois un ciel très nuageux avec quelques averses isolées sur l'extrême sud, l'est et aux loyautés. Sur l'ouest, le soleil sera présent. Le vent d'est-sud-est soufflera proche de 15 nœuds. Localement, 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et 10 nœuds en début de matinée. Ce sera sur l'ouest, Isabelle.